1, 2, 3.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Je suis Anne Le Trotteur.
Je suis Alfred Pacman.
Et je suis Thomas Levrin.
Ping-pong. La culture sans limite.
Ce soir, dans Ping-pong, une danse totale, tendre et brutale, et une danse du micro et des jeunes créateurs réunis en salon.
Avec Thomas Lebrun, danseur tout-terrain et chorégraphe qui se dit plus émotionnel que conceptuel. Il stimule la jeune création au Centre chorégraphique national de Tours qu'il dirige et présente une création de danse totale, oui, au Théâtre de Chaillot à Paris. C'est du 17 au 20 mai.
Et avec la lauréate du Grand Prix 2016 du Salon de Montrouge, la jeune artiste Anne Le Trotteur, récompensée pour son installation sonnante et chuchotante, l'appétence, et avec Alfred Pacman, président de la 61e édition de ce Salon de la création émergente, qui se donne à explorer jusqu'au 31 mai.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping-pong.
Lui va disparaître, un jour. Mais en attendant, il danse. Et ce, depuis qu'il a l'âge de 5 ans, quand il dansait dans le salon de sa grand-mère à Waterloo, dans la banlieue de Lille. On le dit grassouillet, lui se sent cerné et éphémère, comme un geste rageur ou caressant. Alors, il danse sans cacher sa joie.
Eux viennent défendre l'audace de l'art contemporain avec douceur. Lui est présenté comme le plus sérieux des directeurs de musée. Diplomate, mais aventurier. Un doux entêté, comme disait sa mère. Tellement qu'il a fui Sciences Po pour entrer à Beaubourg dans les années 70, avant d'en devenir 30 ans plus tard le directeur pendant 13 années. Elle a été formée à l'école d'art et de design de Saint-Étienne, puis la haute école d'art et de design de Genève, et s'est obstinée avec douceur dans le travail du langage comme une matière, collectant des sons mono pour, dit-elle, rejouer ensuite le monde avec ses propres mots, rédigeant une encyclopédie poétique de la matière, réalisant des installations de poésie sonore.
Lui, c'est donc Thomas Lebrun qui est aujourd'hui à la tête du Centre chorégraphique national de Tours et qui réunit du 17 au 20 mai 12 danseurs à Chaillot à Paris dans un spectacle de danse totale, fugace et profondément marquant, touchant, intitulé « Avant toute disparition, une danse de combat et une danse de l'adieu ».
Eux, c'est Alfred Pacman et Anne Le Trotteur. Ils viennent respectivement en tant que président du jury et lauréate du Grand Prix de la 61e édition du Salon de Montrouge nous parler création émergente et chuchotement.
R22, tout le monde, antenne, Salon de Montrouge.
R22. C'est la radio qui accompagne la cartographie de la jeune création au Salon de Montrouge. Des 60 artistes exposés à notre auteur, vous êtes la lauréate du Grand Prix du Salon et du Palais de Tokyo, avec une pièce de poésie sonore, l'appétence. Enfin, vous aviez inventé toute une langue, toute une syntaxe avec votre sœur. Ça sonnait comment?
Cette syntaxe? Eh bien, c'est j'ai deux sœurs, donc Claire et Laurence, et on a développé un langage ensemble. C'est une syntaxe qui est assez fausse, qui est faite de plein de raccourcis avec une utilisation des verbes fausses. Et du coup, j'ai décidé d'écrire une pièce de théâtre avec ça. C'est en cours de production.
Vous ne donneriez pas un exemple de cette syntaxe? Parce que là, c'est un peu
abstrait. Peut-être, là.
On dit que vous aimez répéter vos phrases sur des pas de flamenco.
Oui, oui, oui. Alors, ça fait Claire à Clairette et être avec Vincent ou 120, c'est comme on veut. Laurence ou Momo, c'est comme on veut. Être avec Romain le bourrin ou Roro l'escargot, c'est comme on veut. Anne ou Nénette est avec Nico. Il n'a pas encore de surnom parce que c'est tout récent, alors la famille ne sait pas si ça compte.
Alors vous, enfant, je le disais, Thomas Lebrun, vous dansiez non pas au Salon de Montrouge, mais dans le salon de chez votre grand-mère. Qu'est-ce que vous dansiez? Innocent? Le French Cancan?
Bah évidemment, oui.
Bah évidemment.
Avec des robes et tout ça, oui. Déjà si jeune. Mais pas seulement dans le salon de ma grand-mère, dans le salon de mes parents aussi.
Et c'est de là qu'on doit ces jetés de hanches et de genoux qu'on retrouve dans Avant toute disparition?
Je ne sais pas, peut-être. Non, mais c'est... Ben voilà, hein, après on a fait une autre histoire. J'étais faire des vrais cours de danse après quand même.
Vous avez gardé votre syntaxe particulière aussi dans l'écriture chorégraphique.
La syntaxe du coup de genou, sûrement.
Comme Anne le Trotteur, la fameuse syntaxe du coup de genou. Pour revenir à ce salon de Montrouge sur la création émergente, c'est pas une énième foire d'art contemporain avec des médiums et des tendances esthétiques, on va dire blockbuster. Est-ce que c'est parce que ce sont justement des directeurs de musées qui sont principalement membres du jury qui font la sélection que c'est une pièce de poésie sonore qui a pu émerger, Alfred Pacman, vous me paraissez l'homme de la situation pour répondre. Mais Anne le Trotteur pourra compléter.
Ça n'est pas une foire d'art contemporain, c'est une exposition. Une exposition qui a un commissaire qui s'appelle Ami Barak, qui a fait un travail.
Qui arrive cette année.
Voilà, c'est la première année où il organise le salon. Le salon a une longue histoire. C'est un endroit qui est important sur la scène artistique à Paris, enfin en France, parce que les salons ont plus ou moins disparu aujourd'hui. Ils sont en effet remplacés par des foires d'art, mais des foires d'art, il y a évidemment le contexte commercial. Et là, c'est une sélection essentiellement consacrée à des artistes émergents. Plutôt jeune, assez jeune, et qui montre une espèce d'état de la situation. Il y a eu, je crois, 2000 dossiers, et de ces 2000 dossiers, l'équipe qui a réalisé la sélection en a extrait 60, et sur les 60, le jury a travaillé pour sélectionner trois artistes qui ont reçu les trois prix.
Mais sur la forme, c'est-à-dire, et le médium, on va dire, de la poésie sonore, est-ce que justement ce sont des choses qu'on verrait plus rarement dans un contexte de foire d'art contemporain émerger ?
Oui, peut-être, il faut demander à Anne Le Trotteur.
Anne Le Trotteur, justement, qui en est l'auteur et lauréate du Grand Prix.
Oui, mais moi-même j'étais assez surprise de cette décision et mais je crois pas, en fait. On était beaucoup, rien que dans le Salon de Montrouge, à faire de la poésie sonore, et puis il y a beaucoup de poètes sonores qui travaillent justement avec les institutions de musées.
Donc ça vous paraissait en tout cas un reflet
Oui.
Mais qu'on n'aurait peut-être pas vu ailleurs, mais qu'en tout cas était assez évident et qu'on a vu donc au Salon de Montrouge.
Oui, d'ailleurs il va y avoir bientôt au Centre Pompidou une exposition sur la Beat Generation, donc cette relation entre la poésie et l'art.
Hurlement de Ginsberg.
Voilà, et donc moi j'ai été frappé, puisque moi je n'ai pas choisi les artistes, je suis arrivé pour regarder ce salon, et j'ai été frappé par le nombre d'œuvres qui traitaient à leur manière du langage, que ce soit par écrit, soit par le son. Il y a sans doute une certaine orientation dans l'art d'aujourd'hui, sûrement pas exclusive, mais il y a une certaine orientation dans l'art d'aujourd'hui d'artistes qui vont vers ce mélange en quelque sorte des disciplines.
Thomas Lebrun, pour moi il y a une dimension poétique certaine. Votre langage, c'est pas celui des mots, c'est celui du corps. Il n'en demeure pas moins que j'ai découvert d'ailleurs en préparant cette émission que Alfred Pacman était un amateur, un admirateur du travail de Georges Perec, et moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose peut-être de la tentative d'épuisement, non pas d'un lieu parisien, mais de la danse dans votre avant toute disparition, qui est aussi à sa façon une sorte d'état de la situation, parce que voilà, ce qui m'est venu, c'est l'idée d'une danse totale. Il y a des solis, il y a des duos, on danse en troupe, on va de la danse la plus sexuelle à la plus cérébrale, de la plus populaire à la plus abstraite. Il y a quelque chose comme ça pour vous aussi, de cette tentative d'épuisement de votre art ?
Tentative d'épuisement, pas forcément, mais comment dire ? L'idée de départ de cette pièce, c'est au contraire de que la danse ne s'épuise pas, finalement. Parce que je trouve qu'on est dans une période où la danse, on la voit de moins en moins, que ce soit sur les plateaux, mais aussi dans les propositions. Moi, je suis quelqu'un qui aime le mouvement, qui aime le corps en mouvement, qui défend ça. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve disparaît un peu. Et du coup, j'avais envie de parler de ça, mais pas en pointant directement sur la danse elle-même, mais aussi sur ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Donc, ça parle de, enfin, je veux dire, c'est une pièce qui parle de guerre, qui parle de disparition, disparition de corps, disparition d'une pensée ou d'une conviction. Et du coup, c'est vrai que à travers la pièce, on passe dans plusieurs états qui précèdent pour moi ces disparitions.
Moi, je suis un artiste. ASMR. Autonomous. Sensory. Meridian. Response. Une technique de relaxation. Normalement, on voit les gens
avant de les entendre.
Là,
c'est l'inverse. On se fait une idée sur quelqu'un
par rapport à sa voix.
Mais on n'a pas idée de l'image qu'on renvoie. De l'image que donne notre voix de nous. Pourtant, à la radio, parfois, on nous entend d'abord avant de nous voir. L'appétence fait 9 minutes 22. Vous venez d'entendre un extrait. C'est la pièce avec laquelle vous avez remporté le Grand Prix à Montrouge, Anne-Le Trotter, avec la collaboration des artistes ASMR, donc une sorte de technique donc de réponse simultanée liée à la marijuana, si j'ai bien suivi.
Non.
Qu'est-ce que c'est que ce Marie-Jeanne Response?
Alors, c'est une technique, donc c'est Autonomous Sensory Meridian Response, et donc c'est une technique de relaxation par le son, et donc c'est une mise en exergue des sons ténus. Et ça passe par le chuchotement ou la voix basse, et donc j'ai collaboré avec 6 artistes ASMR que je suis allée chercher sur le web pour faire une pièce sonore. Je leur ai proposé de faire une pièce sonore avec moi, et ils ont accepté, certains, et on a fait donc l'appétence ensemble.
Il y a 4 chaises de salle d'attente de gare ou d'aéroport bleues, vous voulez, qui accompagnent la pièce, car vous accompagnez ces paroles et ces chuchotements toujours d'une matérialisation, d'une installation. Comment est-ce que vous décrivez ce rapport donc entre ces sons et l'espace que vous créez pour les jeter?
Eh ben, par exemple, quand je suis arrivée au Beffroi, qui est l'espace du Salon de Montrouge, je me suis tout d'abord imaginée entourée des œuvres des autres artistes. Et pour une pièce sonore, c'est tout de suite pas un problème, mais en tout cas quelque chose qu'il faut réfléchir par rapport à ça. Et je me suis tout de suite axée en fait par rapport aux fenêtres. Et du coup, j'ai demandé aux 2 commissaires d'exposition si je pouvais être à côté des fenêtres, et donc j'ai demandé à avoir une fenêtre dans la cimaise. Et c'est à partir de là en fait que je me suis une fois que j'avais ce point de vue, c'était facile en fait de déterminer une forme. Et du coup, j'aime faire un parallèle entre les 6 artistes ASMR qui sont en train de discuter et de déterminer ce qu'ils sont en train de faire pendant qu'ils le font, et en fait la position des spectateurs ou auditeurs par rapport à ça.
Alfred Pacman, juste un mot justement sur ce dialogue. C'est ça qui est intéressant dans le travail d'Anne-Le Trotter, c'est qu'il y a la création sonore qu'on vient d'entendre et cette matérialisation dans l'espace. Comment vous l'avez reçue en tant que présidente du jury, et qu'est-ce qui vous a séduit?
J'ai d'abord vu la scénographie en quelque sorte, et il faut comprendre qu'une exposition de groupe où il y a 60 artistes dans un espace qui est pas immense, il y a en effet une confrontation entre les travaux qui ne rend pas très facile pour les artistes de se confronter autour de la pièce d'Anne-Le Trotter. Il y a un autre artiste qui a d'autres œuvres derrière elle, il y en a encore une autre, etc. Et en effet, la scénographie, je l'ai trouvée très très réussie dans ce contexte assez complexe comme ça, d'avoir cette sorte d'écran qui donne sur l'extérieur, ce grand écran, et puis ces chaises. Alors du coup, on est incité à écouter. Ce qui est pas évident, je pense, que dans une exposition comme celle-là, mais je pense que le dispositif est très favorable à la pièce sonore que nous venons d'entendre.
Oui, parce qu'il y a un dispositif donc visuel, une installation, et puis il y a toute la dimension sonore qu'on vient d'apprécier dans ce bref extrait. Et une des choses qui s'apprécie pour moi dans votre travail, Anne-Le Trotter, cette pièce-là, mais aussi des précédentes, comme Les Mitoyennes, c'est le travail de mix que vous faites entre les voix, de mélange, comme on disait autrefois au cinéma. Et justement, j'avais envie de demander à Thomas Lebrun, vous, quelle est la place du mix, ou plutôt du mélange, du fait que vous remixiez aussi des gestes, vous travaillez avec des gestes neufs, inédits, qui vous viennent peut-être comme des eureka, mais il y a aussi tous ces gestes de la danse populaire qu'on peut exercer dans son salon ou dans une boîte de nuit par exemple, et qu'on retrouve réinvesti dans Avant toute disparition. Quelle est la place justement de ces mélanges?
Elles sont venues comme ça. Enfin, finalement, le passage où il y a un peu de danse populaire, on va dire le twist par exemple, ou une danse un peu plus sexuelle de discothèque, elle est venue dans cette idée d'un barbecue des années 50 où tout dégénère.
Mais après, ça c'est mon idée, mon histoire par rapport à la pièce. Je suis pas sûr que dans la pièce, quand on la regarde, on ressent le barbecue des années 50 qui dégénère. Mais c'est aussi plutôt une critique de la société, c'est-à-dire une partie de la société qui ne veut pas regarder ce qui se passe à côté, ou qui finalement partent dans un délire opposé, mais qui détruisent ce que certaines personnes ont mis longtemps à construire.
Et en même temps, vous insistez sur le fait que vous appréciez et vous cherchez à provoquer le plaisir des danseurs, des spectateurs. On a l'impression qu'il y a une jubilation de toute la troupe, en particulier à ce moment-là.
Pour être dedans, pour pouvoir vraiment jouer cette partie-là, cette pièce-là, cette chorégraphie, on est obligé d'être totalement dedans, parce que sinon ça ne marchera pas. Et même quand on dit, par exemple, en répétition, on peut marquer ce passage parce que c'est quand même physiquement très épuisant, on n'arrive pas à marquer puisque ça les prend directement physiquement, et du coup ça monte et ça part.
Et s'il y a un mix donc lointain du barbecue des années 50, du twist et peut-être de votre coup de genou, le fameux
il est dans le twist, le coup de genou.
Il est dans le twist.
Thomas, le coup de tête aussi.
Thomas Lebrun, il y a aussi le langage utilitaire ou prosaïque dans les pièces d'Anne Le Trotter. Vous l'utilisez, c'est votre matière de base. Vous dites que vous agencez des blocs de langage, mais vous inspirez toujours d'émotions vécues. Mais je crois que finalement, une fois la pièce réalisée, ce qui naît de tout cela, c'est surtout l'apparition de l'impossibilité de clarifier toutes ces émotions. Je crois que il y avait une sorte de trouble dont vous étiez, je crois, assez consciente et finalement que vous recherchez. C'est-à-dire qu'on superpose les couches et finalement c'est l'impossibilité de clarté du langage qui arrive.
Oui, il y a ça, mais il y a aussi, par exemple, dans l'appétence, c'est les artistes ASMR qui m'ont donné toute la pièce sonore. C'est-à-dire qu'il y a trois mouvements dans cette pièce-là. Et donc, le premier mouvement, c'est un axe par rapport à une description physique. Et c'est un artiste ASMR qui me disait, qui a pris vraiment l'exercice de la pièce sonore au pied de la lettre en disant, là, ce qui va se passer, c'est que là, nous, on va se faire une idée sur nous alors qu'on va pas nous voir. Et que finalement, ça a été un problème. Et du coup, on a axé toute la première partie par rapport à ça. La deuxième partie, c'est quelque chose de plus tautologique par rapport au langage. Et je leur ai posé une batterie de questions avant. Et cette batterie de questions s'est retrouvée en fait après dans la pièce sonore. Et la troisième partie, c'est aussi les artistes ASMR qui m'ont donné cette troisième partie où je leur demande une description physique de leur voix. Et ce qui se passe, c'est que ils vont me dire qu'en fait ils peuvent pas le faire parce que c'est toujours les autres en fait qui décrivent en fait les voix. Et du coup, il y a ce problème en fait de sujet là-dessus. Et du coup, par rapport à ça, oui, en fait, c'est une accumulation en fait des couches dans le langage qui va donner la pièce sonore. Ouais.
Alfred Pacman, vous qui êtes amateur de la poésie d'Henri Michaux et de son espace du dedans, qu'est-ce que vous avez perçu dans les différentes superpositions langagières d'Anne Le Trotter?
J'étais à la fois intrigué, à la fois séduit par la qualité des chevauchements sonores. Et en effet, il y a un travail poétique qui est intéressant par rapport à certains travaux littéraires, c'est sûr. Mais en même temps, c'est de l'art contemporain. Si ça n'était que de la littérature, ça serait très bien, mais ça serait autre chose, je crois. Et ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que l'écrit, le littéraire, le poème, la poésie peut se glisser dans les arts plastiques. Et ce que ça peut donner, d'ailleurs, dans la danse, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, la relation entre le mouvement et le son est évidemment très 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 importante. Et je pense que dans les arts plastiques, c'est pas une évolution récente, parce que si on pense au dadaïsme, il y a d'ailleurs
on va en
hommage
reparler
à Dada dans le Salon de Montrouge. Il y a eu les poèmes sonores de Schuiters et autres. Mais c'est quelque chose qui peut-être s'amplifie aujourd'hui, peut-être pour des raisons d'appétence des artistes, peut-être pour des raisons d'ouverture technique, que sais-je encore.
Thomas Lebrun, parlons-en de votre rapport au son, puisque vous le dites, vous êtes attaché à la musicalité de la danse. Dans ce nouveau spectacle, Avant toute disparition, là on sent monter l'ambiance sonore qui est celle de la première partie du spectacle, qui est saturée, tout l'espace de cette grande salle du Théâtre National de Chaillot est saturé par le son, un son qui est parasité par la rumeur du monde, des cris, le crépitement des armes automatiques, les vitrines brisées qu'on imagine. En quoi est-ce que dans ce spectacle, peut-être en particulier, le son atteint-il, pénètre-t-il le geste ?
Il y a plusieurs façons de travailler, hein, évidemment, chorégraphiquement avec de la musique. Là, j'ai demandé à un compositeur électro qui s'appelle Scanner, qui travaille à Londres, avec qui j'ai déjà travaillé sur d'autres spectacles, de créer la première partie du spectacle musicalement, parce que je savais que ça allait correspondre, dans ce qu'il écrit en général, à ce que je souhaitais pour la pièce. C'est-à-dire que ce soit dans la musique ou dans la danse pour la première partie, j'avais envie qu'il y ait quelque chose qui raconte sans que ce soit narratif. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des gestes qui vont être, plus clairs que d'autres. Il y a des compositions qui vont être plus claires que d'autres. Il y en a qui vont vous laisser dans quelque chose d'un peu plus interrogatif. Et pareil dans les sons, c'est-à-dire qu'il y aura des sons très concrets, comme des armes à feu ou des gens qui crient. Mais en même temps, il y a une nappe qui va grandir comme ça pendant 30 minutes, qui va monter la pression, mais qui finalement raconte quelque chose, parce que ça nous met dans un état particulier, mais quelque part, la musique elle-même ne raconte pas vraiment. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si vous l'avez vu, vous allez peut-être comprendre.
Il faut aller le voir du 17 au 20 mai à Chaillot. Presque dans une pièce sonore d'Anne Le Trotter, avec cette description des parties du corps de deux amants. On est en réalité dans la bande-son de votre spectacle, Thomas Lebrun, avec une chanson composée par David Lang, qui s'intitule Just, une chanson qui, on l'entend dans cette description des parties du corps, en particulier de ces amoureux, est saturée de désir, saturée d'amour, comme tout votre spectacle, Avant toute disparition. Parlons-en d'amour. À présent, on a parlé de la violence du monde qui nous environne, qui est là aussi, mais il y a de très nombreuses étreintes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, vous, le danseur et chorégraphe, peut-être physiquement, techniquement, mais aussi spirituellement, ce que c'est que de prendre l'autre, de le porter dans ses bras ?
Si on parle de la pièce, je crois que à chaque fois qu'on porte une personne différente dans ses bras, on la porte d'une façon différente. Donc, ne serait-ce que déjà techniquement, si on parle techniquement par rapport au physique, puisque c'est une pièce où les danseurs ont des physiques très différents, que ce soit au niveau largeur que hauteur, et au niveau des âges aussi. Donc, on n'a pas les mêmes corps, on n'a pas la même force. Après, ça dépend aussi si un homme porte un homme, si une femme porte une femme, si une femme porte un homme, etc. Et ça dépend aussi à quel moment de la pièce on va porter cette personne.
Et il y a un dénominateur commun, pour autant, dans toutes ces étreintes qui...
Bah, vous l'avez dit, l'amour, évidemment.
C'est tout, il suffit de ça pour savoir faire un porté en danse ?
Oui, je crois. Bah oui, en même temps, le porté qui revient tout le temps, c'est quand même quelque chose de très très simple, c'est de prendre quelqu'un dans ses bras et de le transporter juste à côté de soi. Bon, ça paraît simple, dans la lenteur c'est quand même plus compliqué, mais je veux dire... Comme image, c'est une image simple. Il y a beaucoup d'images simples dans la pièce.
Je m'adore. Toutes ces couillonnades chic et pas chères me plaisent beaucoup. Là, je ne vous parle pas d'amour, mais je reprends une déclaration de François Borlée. On est en 2011, on est à Beaubourg pour une rétrospective. Il se balade dans les allées. Alfred Pacman, c'est vous qui êtes à la manette sur cette rétrospective de François Borlée, qui nous a quittés donc récemment. Il se balade, il est rigoureux et rigolard, comme d'habitude. C'était quelqu'un qui aimait l'oulipo, la créativité soumise à la contrainte et la contrainte comme instrument de créativité. Comment, par rapport justement au travail proposé par François Borlée, comment est-ce que vous retrouvez aussi un écho dans cette création contemporaine à Montrouge, de plus peut-être rigolard et aussi cette utilisation de la contrainte créative ?
Oui, c'est-à-dire que derrière le rigolard, l'homme des calembours, l'héritier d'Alfred Jarry ou d'Alphonse Allais, il y a un artiste extraordinaire qui a construit une œuvre extrêmement importante, qui est une œuvre qui se base sur l'argométrique, enfin sur la géométrie, la construction, mais qui mélange cette argométrique, qui est quelquefois un peu austère et un peu systématique, avec les règles du hasard et avec l'oulipo, comme vous disiez, ou tout ce qu'on voudra dans ce domaine-là. Et en fait, un tableau de François Borlée, une construction de François Borlée, elle est basée sur un coup de dé, elle est basée sur lire l'annuaire du téléphone, et si les chiffres sont pairs ou impairs dans le dernier numéro, eh bien, on en déduit la façon dont l'œuvre va se construire. Donc, des règles à la fois absurdes et très joyeuses, en quelque sorte.
Et ce détournement du système, pour vous, qui est le plus important dans ce qu'il a amené ?
Oui, de toute façon, je pense qu'un artiste détourne toujours le système. Un vrai artiste, c'est quelqu'un qui ne se contente pas d'être dans un système, mais qui va le bousculer et le modifier. Et c'est un artiste dont l'œuvre qui a duré très longtemps, puisqu'il a commencé son œuvre dans le tout début de l'après-guerre, et qu'il est décédé il y a quelques jours, et c'était vraiment une figure majeure de l'art international, et quelqu'un qui a vraiment marqué cette ouverture de l'art qu'on a appelé l'art construit, dans quelque chose qu'on pourrait qualifier de déconstruit. 1, 2, 3...
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui aime peut-être autant l'annuaire du téléphone que le French Cancan.
À suivre, peut-être une lecture d'annuaire, en tout cas le centenaire du cabaret Voltaire. On en reparlera avec nos invités Anne Le Trotter, Alfred Pacman et Thomas Lebrun.
Mais tout de suite, il est l'heure de retrouver Zoé Sfez pour son journal de la culture.
Ping Pong.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde, bonsoir à tous.
Bonsoir Zoé.
Zoé, dans votre dossier ce soir, vous revenez sur cette prétendue découverte d'une cité maya par un jeune adolescent de 15 ans, révélée, si l'on peut dire, par le Journal de Montréal. Après avoir fait le tour de la presse internationale, de nombreuses voix d'archéologues mayanistes se sont élevées pour mettre sérieusement en doute l'existence de cette cité. Une affaire qui vient s'ajouter à d'autres et qui inquiète la profession.
Oui, alors cette histoire, vous l'avez sans doute lue ou entendue, puisqu'elle a été publiée à peu près dans tous les journaux français, Le Figaro, Le JDD,
aider absolument tous, j'en passe, un jeune adolescent canadien, un certain William, passionné par la civilisation maya, aurait développé une théorie selon laquelle les mayas construisaient leur ville en tentant de reproduire le dessin des constellations, donc des étoiles. Avec le concours d'images fournies par l'agence spatiale canadienne, il aurait déduit l'existence d'une nouvelle cité maya selon ses dessins, annonce fièrement il y a 2 semaines le journal de Montréal. Alors selon les images satellites trouvées et montrées par le journal, le garçon aurait découvert en pleine jungle des formes géométriques qui seraient les vestiges d'une cité manquante baptisée par lui Bouche de Feu. Une expédition doit être montée, le journal de Montréal lance des cotisations, la presse s'emballe, toute cette histoire de découverte archéologique enthousiasme les pages culture comme tant d'autres, sauf qu'une semaine après la diffusion massive de cette histoire, tous les spécialistes des Mayas mettent le holà, à commencer par 2 éminents professeurs français, Marie-Charlotte Arnaud, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'habitat et de l'urbanisation des Mayas, qui rappelle que les constellations sont des constructions culturelles et que celles sur lesquelles le jeune homme s'est fondé nous viennent des Grecs. Éric Taladoir, quant à lui, est lui professeur émérite d'archéologie précolombienne à Paris 1, auteur de l'ouvrage de référence Les Mayas, dont le jeune Canadien dit s'être servi, et lui aussi, en lisant cette histoire, tombe des nues.
J'ai regardé dans le détail, et là j'ai été quand même atterré de voir la façon dont la presse relayait cette information absolument sans prendre le moindre recul, comme si c'était un fait attesté. C'est-à-dire que on y parle d'une cité de 80 à 100 km², ce qui fait à peu près la taille de Paris, avec une pyramide de 87 mètres de haut, située en plein cœur du Bélissé, qui est la région maya qui est à l'heure actuelle la plus fouillée de toute la région. C'est quelque chose qui ne peut pas passer inaperçu, mis à part le fait que le chiffre de 80 à 100 km² est absolument absurde. Là-dessus, gamin en question parle du fait que les cités mayas sont éloignées des points d'eau et sur des hauteurs inaccessibles, ce qui n'est pas exact. Il y a un flou artistique total. Ils ont parlé aussi de 2 archéologues canadiens qui auraient validé l'information. Je connais à peu près tous les mayanistes du Canada et aucun d'entre eux n'a été joint.
Alors, on les connaît tous.
Affaire plutôt un dadaïste qu'un mayaniste avec ce jeune homme, mais au-delà de ce qu'apprécie Zoé, Éric Taladoir et ses collègues s'inquiètent de la manière dont les sciences et l'archéologie en particulier sont traitées dans les médias.
Oui, c'est-à-dire avec très très peu de précision. Alors là, pour le coup, le journal de Montréal clairement a visiblement décidé de monter une affaire, puisque après avoir communiqué ses remarques, ses objections au journal, Éric Taladoir a vu que le journal publiait finalement une autre carte, situant cette fois la cité maya non plus au Belize, mais dans le Yucatan, dans un autre pays, au Mexique. La zone dite inaccessible serait située seulement à quelques kilomètres du plus grand site archéologique du coin, donc tout à fait accessible en une demi-journée par la route. Les images des coordonnées révélées, non pas une pyramide, mais simplement un champ de maïs ou un champ de cannabis qui serait donc caché. Le journal de Montréal n'est plus joignable pour répondre à nos questions, ni à celles des archéologues, mais c'est inquiétant quand on sait qu'une découverte similaire, par exemple, avait été montée toute pièce aussi l'année dernière, en fin d'année, par le National Geographic, révélant soi-disant l'existence d'une autre cité Inca au nord du Honduras, qui était en fait connue depuis très longtemps. Éric Taladoir en profite pour rappeler que si l'archéologie est l'une des disciplines dont les trouvailles attirent le plus les foules, c'est extrêmement populaire, on le voit nous-mêmes sur notre site internet quand on publie des histoires relatives à l'archéologie, elle reste avant tout une science et appelle de la part des journalistes la même rigueur que toutes les autres en la matière.
Un collègue chimiste disait que pour qu'une expérience chimique soit démontrée, il faut à peu près 1000 tentatives. Donc il y a un temps de gestion. Dans le domaine qui nous intéresse ici, c'est la vérification, la seule vérification possible, c'est d'aller voir au sol. Sur Internet, on repère des choses, pour les identifier, les dater, etc., il faut aller sur place. Ça, c'est le premier point. Le second point, qui est vraiment problématique, c'est le fait que le phénomène Internet joue au maximum dans ce genre de choses. Et nous ne sommes absolument pas préparés, nous, à ce genre de choses. Nous commençons à nous poser des questions, justement, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ce genre de choses. Cela étant, les informations, les données, sont disponibles sur Internet, beaucoup. Il suffisait de regarder une carte du territoire maya pour s'apercevoir que la plupart des cités sont implantées à proximité de points d'eau, contrairement à ce que disait l'article. Ce sont des choses élémentaires. qui aurait dû au moins ralentir la diffusion de la nouvelle.
Voilà, ce sont des titres à clic en fait.
Tout à fait, et c'est pour ça que du coup, tous les journaux français ont été obligés de faire leur mea culpa, et ce, à l'instigation, on va dire, à l'initiative du site Arrêt sur image, critique des médias de Daniel Schneiderman, en attendant l'agence spatiale canadienne qui avait fourni ces images, et donc une caution scientifique au jeune homme, eh bien, explique que l'enquête du jeune William doit effectivement être vérifiée, mais qu'en tout cas, sa démarche était louable. Et donc on ouvre les brèves avec cette séquence culte du film Casablanca pour évoquer la disparition à 92 ans de l'actrice Madeleine Lebeau. Vous l'avez peut-être reconnue, c'est elle qui crie « Vive la France, vive la démocratie » dans cette séquence du film où des réfugiés français entonnent à Casablanca l'hymne français face à un groupe d'Allemands. La scène a été tournée en pleine occupation française à Hollywood où Madeleine Lebeau s'était réfugiée avec son mari, l'excellent acteur Marcel Déliot, juif. Après cette carrière forcée à Hollywood, elle revient ensuite en France, elle tourne avec Gene Simone, Yul Brynner et surtout évidemment avec Fellini dans lequel elle incarne une Française délurée dans le film 8 et demi. Elle était donc la dernière actrice encore en vie du casting de Casablanca.
Zoé, la littérature éclectique a fait bon voyage.
Oui, bon bilan pour le festival étonnant Voyageurs avec près de 63 000 visiteurs, soit une fréquentation légèrement supérieure à celle des dernières années. Eh bien, très bon bilan, participation de quelques 300 écrivains, débats, rencontres, et ce, malgré des inquiétudes dues aux difficultés financières pour organiser la manifestation cette année. Les organisateurs se disent dans un communiqué heureuse de cette réponse très positive du public.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong. C'est sur France Culture.
Im Februar 1916 gründete Hugo Ball in der Spiegelgasse 1 das Cabaret Voltaire, aus dem Dada entstand.
Ahoi! Ahoi! D'accord! Prenez sa peau! Chagne! Colère! Grenade! Durand! Comment faire? Peau! Brûlé! Gilles! Mur!
La création du cabaret Voltaire à Zurich en 1916. Vous venez d'entendre un extrait de ce que la poésie sonore des Dada pouvait produire alors. Les Dada et le centenaire du cabaret Voltaire sont à l'honneur dans ce festival, dans ce salon de Montrouge autour de la création contemporaine. Ça a été voulu par Ami Barak, donc qui en est le nouveau directeur. Alfred Pacman, vous étiez président du jury. Anne-Le Trotter, vous êtes le grand prix du salon de Montrouge. En quoi c'était important donc de revenir à ses fondamentaux et de remettre les Dada à l'honneur? Parce que Alfred Pacman, je crois que vous disiez qu'il y avait pour vous un retour de la poésie sonore dans la création aujourd'hui.
J'ai peut-être pas dit un retour, mais en tout cas une présence assez, assez accentuée. Et Dada est évidemment un, qui a 100 ans, est un mouvement, un groupe d'artistes qui a la particularité d'être un groupe international, puisque Dada, c'est à Zurich, à Paris, à New York, en Allemagne. Et c'est évidemment un groupe d'artistes extrêmement audacieux, extrêmement novateur. Les grands noms qu'on connaît tous, c'est Marcel Duchamp, c'est Picabia, c'est Schwitters, mais il y en a beaucoup d'autres. Et je pense que cette importance de Dada sur l'art d'aujourd'hui est évidemment manifestée, enfin c'était important de la manifester à l'occasion de cet anniversaire dans le salon, non pas avec des œuvres des artistes Dada, mais avec des œuvres d'artistes contemporains, un peu plus âgés que ceux qui sont choisis pour le salon, mais qui sont des artistes qui témoignent de la présence de Dada aujourd'hui.
Et pour vous, Anne-Le Trotter, ça représente quoi, la poésie sonore des Dada dans votre travail, puisque vous avez donc, je le rappelle, remporté le Grand Prix sur une pièce sonore qui s'appelle L'Appétence, et vous êtes toujours dans la création sonore.
Moi, c'est des choses que j'ai beaucoup écoutées et que je continue encore à écouter. Même mes premières pièces sonores étaient assez Dada aussi, comme... comme la technique de la carotte, par exemple. C'est une pièce sonore que j'ai faite au tout début qui est effectivement assez Dada.
Est-ce que vous pourriez raconter la technique de la carotte?
Alors c'est l'histoire d'une carotte, donc c'est la technique de la carotte. Donc la technique de la carotte, alors c'est une carotte qui s'enfonce dans la terre, donc elle s'enfonce jusqu'à ce qu'on veut. Puis après on la ressort et donc du coup il y a un trou. Et on regarde dans le trou et on voit. Donc par exemple si c'est des gens dans un bâtiment, alors du coup il y aurait le béton, la terre effritée, la terre rouge, la terre après je sais pas, après le noyau, mais ils vont pas jusqu'au noyau. Et donc après voilà.
Vous voulez dire la carotte s'enterre dans le langage, en fait.
Voilà, exactement, oui. C'est toujours cette histoire de la couche.
Vous sentez un brin dada, sous influence, Thomas Lebrun ?
J'en sais rien.
Ça, c'est très dada comme réponse.
Dans le glissement entre performeur, plasticien qu'il peut y avoir en ce moment sur des scènes. Vous qui êtes aussi, oui, comme comédien-chanteur. Dans le glissement, on va dire, de la performance et des arts plastiques aussi sur la scène, sur les plateaux, au théâtre et en danse. Mmh. C'est quelque chose que vous observez ?
Il y a presque des carottes, d'ailleurs, plantées dans la pelouse de Avant toute disparition, votre nouveau spectacle au théâtre de Chaillot. Ouais.
Ça, c'est votre refus du conceptuel, je sens, là, Thomas.
Non, pas du tout. Non, parce que, oui, chanter sur un plateau ou des choses comme ça, c'est aussi des choses qu'on fait, que je peux faire dans certains spectacles. On va dire, le spectacle qu'on fait en ce moment, Avant toute disparition, c'est un spectacle que j'ai fait aujourd'hui. J'en ai fait d'autres avant et j'en ferai d'autres plus tard qui ne seront pas pareils du tout. C'est-à-dire que j'ai pas une direction définie de mon travail. Je vais commencer à travailler une pièce parce que j'ai envie de parler de quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve ou parce que voilà, je suis pris par certaines choses. Et donc du coup, je vais pas diriger mon envie et mon travail dans ma façon de faire obligatoire. C'est-à-dire que je vais travailler une danse différente, une proposition scénique différente à chaque fois que je vais faire un spectacle par rapport à ce que j'ai envie de dire, par rapport à ce que j'ai envie de faire. J'ai pas un style d'écriture particulier, même si on va dire que dans mon écriture chorégraphique, on ressent mon travail, mais j'ai toujours l'envie et le désir de l'emmener ailleurs et de pas faire justement la carotte, m'enfoncer tout le temps dans la même direction.
Mais dans ce que disait Martin de la représentation qu'il a eu la chance d'aller aux répétitions, on s'est séparés dimanche. Moi, je suis allée voir Goldshift et Farrell qui viendra nous voir cette semaine pour Anna Karenine. Il y avait cette idée d'art total. Est-ce que justement, c'est pas ça aussi un peu le côté de dada qu'on pourrait retrouver dans cette proposition-là ?
J'ai peut-être pas encore assez de recul sur la pièce. Enfin. Et puis c'est pas moi de le dire.
Mais ce qui m'est venu, Thomas Lebrun, en voyant le spectacle, c'est que peut-être que comme les dadaïstes étaient attentifs, et les surréalistes après eux, attentifs au quotidien, aux faits divers en particulier, il me semble qu'il y a des gestes que vous attrapez dans votre chorégraphie pour ce spectacle et qui pourraient s'apparenter à des gestes du quotidien. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un geste du quotidien et un geste dansé ? C'est que vous le rendez visible d'une autre façon ?
Ben ça aussi, c'est plutôt à vous de le dire, puisque moi, je quelque part, pour moi, tout geste est dansé. Donc voilà, là, je suis en train de faire un geste avec ma main sans m'en rendre compte, mais quelque part, il a une musicalité, il a un espace, il traverse un espace. Enfin, je veux dire, si on rentre là-dedans, dès qu'on bouge, dès qu'on est dans une proposition physique, on est dans quelque chose de dansé, si on en est conscient.
Et vous pourriez nous parler de votre danse à notre terre, puisque quand vous enregistrez, que vous mâchez, que vous remâchez vos pièces sonores, comme vous avez pu le dire, il semble que vous dansez, vous marchez, vous parlez d'une danse du micro.
Eh ben, c'est plutôt un conditionnement, en tout cas. C'est beaucoup d'exercices avant, beaucoup de répétitions, beaucoup d'enregistrements, et tout ça, ça passe forcément par. Un tour à la cuisine, la cigarette, le café, le thé, etc. Et puis de revenir, etc. De s'asseoir, se lever. C'est une espèce de malaise aussi corporel. C'est plus ça.
Alfred Pacquemont, on ne va pas vous parler de vos danses, mais...
On pourrait, hein, parce qu'il paraît qu'enfant, vous avanciez sans... Oui. Vous marchiez sans avancer les bras.
Mais vous avez quand même...
Enlever les bras.
Vous avez quand même un côté dada aussi à votre manière. En tout cas, vous avez décidé de changer de trajectoire. Moi, ça m'intéresse ce moment où vous avez décidé de quitter cette personne que vous auriez pu devenir en faisant Sciences Po, d'allant jusqu'au bout. Et qu'est-ce que vous êtes allé faire dans les moquettes du Beaubourg tout frais? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas?
Ah ben, il y avait un appétit pour l'histoire de l'art. Et cet appétit pour l'histoire de l'art, à un moment, je me suis dit qu'il fallait mieux que je m'y consacre complètement, plutôt que de mêler une analyse du monde contemporain via la politique, via l'économie. Et puis, au fond, l'art résume tout. L'art est politique, l'art est économique, l'art a tout ça à la fois.
Et donc,
je me suis lancé dans l'histoire de l'art. Je ne l'ai plus quitté, avec cette particularité qui a été pour moi une chance extraordinaire, qui a été de rencontrer des artistes et donc de me dire que c'était quand même bien plus excitant d'avoir sous la main François Morellet ou d'autres que de travailler sur Giotto et sur Rembrandt qui n'étaient pas là pour me répondre. Donc j'ai choisi l'art contemporain très, très tôt, très vite, et puis je ne l'ai plus quitté.
Est-ce que vous pouvez parler peut-être avec Thomas Lebrun de votre expérience de danse ou de non-danse, parce que c'est aussi un des courants, une des branches de la danse contemporaine, puisque j'y reviens, on a pu dire de vous qu'enfant, vous avanciez sans remuer les bras. On se croirait avec ces personnages qui ont la tête dans les épaules, hein, dans la chorégraphie de Thomas Lebrun.
Écoutez, vous m'apprenez quelque chose, c'est avant que je m'en souvienne. Cet épisode.
Et pour mettre en valeur la modestie de votre démarche et votre sens de la diplomatie. Non,
c'est lorsque vous disiez que votre mère vous appelait le 12 entêté.
Oui, oui.
Vous aviez tendance à creuser votre sillon comme ça, vous obstiner, mais sans vous agiter bras en l'air.
Ça puisse se
comparer. Croiser les bras d'ailleurs.
C'est une danse intellectuelle.
Oui, peut-être, c'est une danse intellectuelle. De toute façon, comme c'était très bien dit à l'instant, tout geste est danse et donc tout comportement a quelque chose à voir avec ce mouvement moi je suis un très très grand, je suis pas du tout un connaisseur, mais je suis un grand admirateur de la danse contemporaine en particulier, parce que je trouve absolument formidable cet apprentissage du corps et cette façon dont les danseurs, et d'ailleurs pour revenir à Dada, je pense que sans Dada il n'y aurait pas eu Merce Cunningham et John Cage, et sans Merce Cunningham et John Cage, je pense beaucoup de chorégraphes contemporains ne seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. Donc finalement, la filiation Dada, elle existe de toute façon.
Ping pong.
Zoé, vous allez nous faire danser?
Je vais vous faire
danser. Ou nous faire courir paniquer comme une autre des danseuses de Thomas Lebrun.
Disque de joie, disque du monde entier. C'est le nouvel album d'un groupe absolument unique, Familia Atlantica. Ça s'appelle Cosmic Unity. Un groupe comme seul Londres peut en produire, puisqu'on y trouve tout, sauf des Britanniques. Il est constitué de l'immense diva vénézuélienne Lizmira Zerba, le producteur Jack Iglesias, un maître percussionniste nigérian, Kwame Crensil. Tous se sont rencontrés et concoctent une espèce de funk psychédélique d'ethio jazz, mais résolument moderne, très jouissif, qui raconte à lui seul, on peut le dire, une bonne partie de l'histoire du monde. Démonstration avec Enjela.
La texture inimitable de Family Atlantica, leur nouvel album Cosmic Unity est sorti vendredi dernier. Il est disponible chez tous les bons disquaires et sur toutes les bonnes plateformes de streaming. C'est paru au label Soundwave.
Mais vous voyez qu'avec cette flûte traversière, ce steel band, on a envie de danser, même de remuer les bras. On continue demain en votre compagnie, Zoé.
Ping-pong. C'est déjà fini.
Merci mille et une fois à tous trois, Anne Le Trotter, Alfred Pacman et Thomas Lebrun. Anne Le Trotter et Alfred Pacman, vous êtes complices dans le cadre du Salon de Montrouge, ce salon de la création émergente qui est à découvrir, à explorer, à défricher jusqu'au 31 mai. Et en particulier, il faut donc aller s'asseoir devant la fenêtre sur les fauteuils bleus disposés par Anne Le Trotter pour écouter sa nouvelle pièce, L'Appétence, qui a remporté le Grand Prix. Thomas Lebrun, vous, il faut vous retrouver et danser sur sa chaise en vous regardant et en appréciant la danse des 11 autres danseuses et danseurs qui vous accompagnent du 17 au 20 mai au Théâtre National de Chaillot pour le spectacle Avant toute disparition.
Le ping-pong est un langage radiophonique qui se construit en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction, Aïssatou Ndoye, Hélène Delis et Mathilde Cadreau. À la réalisation et la programmation musicale, Thomas Beau. Et à la prise de son ce soir, Élise Le et Jacques Hubert.
Le ping-pong et cette émission en particulier peut s'apprécier pendant l'éternité et un jour sur franceculture.fr. Mais quid de demain ?
Demain, la chute de Goldman Sachs au théâtre et l'individu coté en bourse en BD avec le metteur en scène Arnaud Meunier et le scénariste Xavier Dorizon. Bum!